C'est par un contre-exemple dans le livre de Nombres, chapitre 20, versets 6 à 13. Et pourtant, quel homme ? Il s'agit de Moïse. Lisons ensemble Nombres, chapitre 20, versets 6 à 13. C'est un contre-exemple de la part de l'homme le plus patient et le plus humble de la terre. C'est pas n'importe qui, Moïse. Ben même lui, ça lui est arrivé d'avoir ses écarts. Donc c'est peut-être un peu encourageant pour nous. On se dit, si même Moïse, l'homme de Dieu, n'a pas su toujours rester dans une bonne attitude, alors c'est un peu normal que nous aussi, cela nous arrive. Nombres chapitre 20, verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, donc ils se sont prosternés, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. » Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié Dieu. Vous connaissez peut-être, même si vous n'êtes pas habitué de l'Église, cette prière, « Notre Père, que ton nom soit sanctifié. » Moïse et Aaron ne l'ont pas sanctifié. En fait, Moïse s'est irrité. L'homme le plus patient de la terre n'a pas toujours su garder le contrôle de lui-même. Et là, il a fait ce que Dieu ne lui avait pas demandé. Il a frappé deux fois le rocher par emportement et il s'est adressé au peuple alors que Dieu lui avait demandé de parler au rocher. « Tu parleras au rocher ». Une eau abondante sortira et le peuple pourra se désaltérer. Mais il s'adresse à eux et d'une façon quand même un peu incorrecte en leur disant « Rebelles, rebelles, j'en ai assez de vous. Rebelles, est-ce que nous allons pouvoir, il parle de lui, est-ce que nous allons pouvoir faire sortir de l'eau du rocher ?» Il n'avait pas à entrer en contestation, il n'avait pas à parler au peuple, il avait à parler au rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, nous dit que Christ était ce rocher qui les suivait. Alors pourquoi Paul dit ce rocher qui les suivait ? Eh bien, si vous connaissez la Bible, vous savez que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu de l'eau qui sort du rocher. Il y a eu une première fois en Exode chapitre 17 et une seconde fois en Nombre chapitre 20, ce que nous venons de lire ce matin. En Exode chapitre 17, c'est tout au début, à peine sorti d'Égypte. Il y a là encore un murmure et Dieu fait jaillir de l'eau du rocher qui, celui-ci, devait être frappé par Moïse. Mais la seconde fois, presque 40 ans plus tard, le même rocher fait jaillir la même eau. C'est vraiment pour cela peut-être que Paul disait que le rocher les suivait, parce qu'il y a eu un rocher au début du désert et à la fin du désert. Christ les a suivis. Et pourtant, Paul dira dans le même chapitre que, pour autant, ils sont tous morts dans l'incrédulité. Terrible ça, de pouvoir voir Jésus-Christ qui nous suit, mais si l'incrédulité est dans nos cœurs, néanmoins de périr dans un désert. Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié Dieu dans un moment difficile. Honnêtement, vous et moi, on comprend Moïse quand même. Ce n'était pas la première fois, ni la seconde. Et on compatit tout à fait. Et presque, on trouverait que c'est normal qu'à un moment donné, quand même, et encore, et c'est assez limité, il aille un peu au-delà des limites qu'il devait aller. Mais il n'a pas su sanctifier Dieu dans un moment difficile. Dans des moments difficiles, apprenons à ne pas céder à l'irritation, la colère, à des paroles déplacées. Parce que nous allons lire maintenant, lisons-le au psaume 106, verset 32, s'il vous plaît. Le psaume 106, verset 32. Psaume 106, verset 32. Il y a là quelque chose qui se rapporte. À cet événement, psaume 106, 32, « Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » Amen. C'est pour cela que je me permets de donner cette interprétation à ce texte. C'est parce que ce psaume va dans ce sens. Il parle de nombres vains, comme pour Moïse, ayant un esprit aigri et des paroles légères. Il parla sans réfléchir, dit notre traduction. Il parla sans réfléchir. Vous ne trouvez pas que quand on vit des épreuves, on parle sans réfléchir? Vous ne trouvez pas parfois que l'on est léger dans les moments où Dieu nous demande plutôt de le sanctifier, de le glorifier. Au lieu de cela, au lieu de nous adresser, au rocher, à Jésus-Christ, pour qu'il répande son esprit, peut-être nous avons des paroles légères, nous parlons, nous discutons. Adressons-nous au rocher, adressons-nous à Jésus-Christ dans les moments les plus difficiles. Amen. Paroles légères, cela m'a fait rappeler Colossiens, chapitre 3, verset 8, j'aimerais bien que vous m'accompagniez dans cette lecture. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens 3, 8. Colossiens 3, 8. Pourtant, dans le psaume 106, on voit bien que c'est l'Éternel qui était en colère. Donc comment concilier que Dieu qui est en colère punit Moïse qui se met en colère? Bien tout simplement parce que quand Dieu se met en colère, il garde le contrôle. Et sa colère est toujours mesurée et juste. Que celle de Moïse l'a amené à aller au-delà de ce que Dieu lui avait demandé. Ce n'est pas forcément un péché d'être indigné, d'être en colère contre le mal. Ce n'est pas forcément mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand notre colère nous amène plus loin que ce que Dieu nous demande. Colossiens chapitre 2, chapitre 3 j'ai dit, non ? Voilà, 3 verset 8, merci. « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » D'autres traductions disent « aux paroles déshonnêtes ». Encore d'autres traductions rendent par « grossièreté ». Grossièreté. Et vous voyez, la bouche, c'est à la fin de ce verset. Mais ce qui est au départ, c'est la colère. Maintenant, renoncer à toutes ces choses. Premièrement, la colère. Et dernièrement, les mauvaises paroles, les paroles équivoques, déshonnêtes, grossières, qui pourraient sortir de votre bouche. L'irritation pourrait nous conduire à pécher avec nos bouches. Et c'est en cela que Moïse n'a pas sanctifié le Seigneur. À cette prière, « Notre Père, que ton nom soit sanctifié », on peut donc comprendre par ce passage qu'entre autres, ce n'est pas limité à ce que je vais vous dire là, mais entre autres, sanctifier le Père, c'est ne pas dans la vie s'irriter, s'aigrir et dire, à cause de cette irritation, dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Moïse ici n'a pas été grossier. Bon, il a quand même été agressif. Mais l'autre passage dans l'Épître aux Colossiens nous parle de paroles déshonnêtes, de grossièreté. J'en profite pour vous rappeler, bien-aimés, frères et sœurs, ou amis, qui voulaient connaître le Seigneur, il y a un langage qui ne glorifie pas Dieu. Avant de nous convertir, nous disions beaucoup de gros mots, d'insultes. Et on ne s'en rendait même pas compte. Les premiers pas de notre vie chrétienne, il n'était pas rare que dans l'église, des chrétiens nous disent « Hep, 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 ça se dit pas. » Et de demander « Ah bon ?» Parce qu'on s'habitue à cela. Mais si vous voulez suivre le Seigneur, il va falloir changer votre langage. Pas d'insultes, pas de grossièreté, mais des paroles qui le glorifient. La politesse, des mots qui n'attristent pas le Saint-Esprit. Dieu entend ce que nous disons. Dieu nous écoute. Et nous l'oublions souvent. Quand on est énervé, on oublie tout. On oublie Dieu. Mais il n'est pas sanctifié. Lorsque nous ouvrons notre bouche, qui dans la Bible est comparée à un sépulcre ouvert. C'est terrible ça. J'y pensais, mais ma bouche, ça peut être comme une tombe qu'on ouvre et on voit un mort. C'est horrible, ça ferait fuir plus d'un. Oui, notre bouche est comparée à une tombe qu'on ouvre et on voit dedans toute la mort qu'il peut y avoir. C'est pas beau. Dans un même ordre d'idées, l'apôtre Pierre parle de sanctifier le Seigneur. Vous voulez le lire avec moi ? 1 Pierre chapitre 3, versets 12 à 16. 1 Pierre chapitre 3, versets 12 à 16. Pierre 3:12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux. Alors dans le contexte, n'ayez d'eux, c'est les païens, les non-convertis, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, non pas comme Moïse qui leur dit « rebelle », mais à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient que vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Vous comprenez ce verset de conclusion déjà? Il nous étonne parce qu'il est possible que ce soit la volonté de Dieu que nous souffrions. C'est ce que veut dire ce passage. Vous voulez bien le regarder de nouveau avec moi. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Non, c'est faux de dire que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours délivrés, guéris et que nous ne souffrions pas. C'est faux. il y a parfois des temps où la volonté de Dieu, c'est que nous souffrions. Il a été de la volonté de Dieu que Christ souffre la croix. Et la croix, c'est pour chacun d'entre nous. Il y aura toujours des moments dans notre vie où nous souffrirons la croix. Si telle est la volonté de Dieu, il vaut mieux souffrir en faisant le bien que le mal. Dans le contexte, c'est quoi ? Souffrir en faisant le bien plutôt que le mal. Ben dans le contexte, c'est souffrir avec douceur et respect. Voilà. Souffrir en faisant le bien, c'est souffrir en continuant d'aimer les gens, d'être doux avec eux et de les respecter, alors qu'eux peut-être ne le sont pas du tout. Mais peu importe. Nous voulons sanctifier Christ le Seigneur dans nos cœurs. Amen. Sanctifier le Seigneur. Le plus important, bien aimé, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre relation avec le Seigneur. Et parfois, notre relation avec les autres peut gâter notre relation avec le Seigneur. Lorsque nous nous énervons avec les autres, nous perdons notre communion avec le Seigneur. Alors, l'Écriture dit, ne soyez pas troublés, n'ayez d'eux aucune crainte. Facile à dire, mais quand des fois, sur notre lieu de travail, il y a comme une ligue où des collègues de travail nous haïssent et nous traitent de voleurs, de malfaiteurs, alors que nous sommes chrétiens, des fois on se dit, mais c'est pas possible cela. Je suis le Seigneur, je m'efforce de lui être agréable, et bientôt je suis pire que celui qui est emprisonné pour les pires méfaits. À leurs yeux. Et l'on peut avoir peur. Réfugions-nous dans le Seigneur. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse ? Vous n'avez pas cru en moi et vous ne m'avez pas sanctifié. D'abord, Moïse n'a pas cru. Moïse et Aaron n'ont pas cru. Continuons de croire dans le Seigneur. Dans nos moments difficiles, dans nos tempêtes, dans les moments d'opposition, dans les moments d'incertitude. Décidons de sanctifier le Seigneur. Le plus important, c'est pas de nous sortir de notre problème. C'est d'apprendre dans nos problèmes à ne pas avoir peur et donc avoir les yeux fixés sur l'entourage ou le contexte, mais de lever un peu les yeux et de fixer les yeux sur le Seigneur et dans notre cœur de dire « Je veux te glorifier, je veux te sanctifier par ma bouche, par mes réactions. Aide-moi, Seigneur. » Je l'ai dit tout à l'heure, si Moïse, l'homme le plus patient de toute la terre, n'a pas toujours réussi, ne soyez pas désolés. Peut-être ce matin, en entendant cette parole, vous pouvez vous dire, je mesure quand même que cette semaine, eh bien, dans mon comportement, dans mes paroles, je n'ai pas glorifié, je n'ai pas sanctifié le Seigneur comme il le fallait. Bien, si le Seigneur parle ce matin, ce n'est pas pour nous donner un coup de bâton sur la tête, c'est plutôt pour nous délivrer parce que sa parole agit en nous. Sa parole nous sanctifie. Et si ce que vous entendez, vous dites « Amen », c'est vrai. J'ai besoin, Seigneur, d'apprendre la sainteté de ton nom, le respect de ta sainteté. Parce que sanctifier Dieu, c'est respecter sa sainteté. Eh bien, oui, Seigneur, pardonne-moi, change-moi. Eh bien, cette parole que vous entendez, elle va agir. Alléluia. En vous qui croyez. Alors, je ne dis pas que cette semaine, vous allez être tout à fait autrement. Mais vous allez commencer à changer, alléluia. De toute façon, on a commencé à changer depuis qu'on est converti. Alors vous me direz, ouais, ben, comment ça se fait que je suis pas encore arrivé? Ben, vous savez, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à changer. Et il y en a encore à changer. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Mais c'est pas parce que nous avons des faiblesses que la parole de Dieu ne doit pas nous les dénoncer. C'est pour nous en délivrer. Gloire à Dieu. Alors, revenons, s'il vous plaît, dans Nombre chapitre 20, ce texte que nous avons pris au tout départ, pour relire un petit peu le contexte dans lequel cette réaction un peu vive de Moïse a eu lieu. Nombre chapitre 20. Alors d'abord au verset premier. Nombre chapitre 20, verset premier. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Donc le contexte, c'est que Moïse venait de perdre sa sœur. Souvent, on lit ce passage et on omet ce détail, pensons-nous, mais est-ce un détail de vivre le deuil? Est-ce un détail de perdre sa sœur qui l'a accompagnée pendant toutes ces longues années, ces décennies? Vous vous rappelez de sa sœur? C'est elle qui a surveillé que son petit frère, dans l'eau, ne serait pas noyé, qui l'a protégé en jaillissant vers la fille de Pharaon. Est-ce que tu ne veux pas une nourrice? Et c'est elle qui, bon, bien sûr, à un moment donné, elle a mal parlé avec Aaron, elle a été frappée de la lèpre. Mais Moïse a crié, intercédé, Dieu l'a guérie. Oh, elle a dû être mise à l'écart du peuple pour qu'elle comprenne qu'on ne pouvait pas parler comme elle parlait à Moïse. Mais néanmoins, Moïse a prié pour elle et il s'est, suite à l'ouverture de la mer Rouge, c'est Marie quand même qui entend ce superbe cantique de délivrance avec les tambourins. Elle vient de mourir. Cela peut expliquer en partie que peut-être Moïse n'était pas dans un moment facile au niveau personnel. Oui, les épreuves, les deuils, il y a des moments, il y a des situations, des événements qui peuvent vraiment nous affaiblir. Et c'est dans ces moments-là que c'est un bon moment pour le diable. C'est quand ce n'est pas un bon moment pour nous, c'est un bon moment pour l'ennemi. Et là, ils sont à nouveau excités. Et ils vont réagir mal. Alors disons versets 2 à 6, maintenant, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous mener dans ce méchant lieu, car ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Amen. » On a lu en fait ce verset et les versets suivants. Alors, et ici, c'est l'entêtement d'Israël. Je l'ai dit, il y a eu un premier rocher au tout début du désert, il y avait presque 40 ans. Et 40 ans après, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Le même discours, le même langage. Ils s'en prennent à lui et lui disent, mais c'était mieux en Égypte. Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Mais que de fois dans le désert, Dieu est intervenu. Dieu a manifesté sa grâce, ils ont été sauvés plusieurs fois dans le désert, malgré leur incrédulité. Mais en réalité, même à la fin, ils n'ont pas changé. Là, on peut voir les choses des deux façons. Soit c'était la première génération qui ne changeait pas. Là, on peut quand même comprendre que Moïse, ça l'a usé quelque part. Quelle déception de se dire, mais après tout ce cheminement, ils en sont encore là. Ou d'autres pensent que ça pouvait être même ceux de la nouvelle génération, que c'était même la seconde génération, puisqu'on est à la fin du désert, beaucoup de l'ancienne génération étaient morts dans le désert. Mais alors là aussi, ce serait terrible pour Moïse, si c'est la nouvelle génération. Vous imaginez sa déception de se dire, c'est pas vrai, ça commence comme leurs parents. Donc on peut comprendre, dans la vie, il y a l'usure des choses qui se répètent. Les déceptions. On peut être marié avec quelqu'un qui n'est pas converti. Et c'est long. Et des fois, on se rend compte qu'après 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, ben ça n'a pas changé en fait. C'est toujours pareil, c'est toujours le même langage. Et là, on peut être tenté de s'énerver, de s'aigrir, de parler mal à son mari ou à sa femme. Je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur te demande. Je crois plutôt que le Seigneur te demande de sanctifier le Seigneur, de le glorifier dans ton couple. D'autres fois, ce sont des enfants qui peuvent nous décourager par leur réaction. On peut comprendre que dans le désert, Moïse, à un moment donné, pour cette énième contestation, n'ait pas fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais néanmoins, même si nous avons cette tentation, notre devoir, c'est de glorifier Dieu dans notre vie. Amen. Alors je comprends tout à fait que vous puissiez éventuellement en avoir assez et dire « mais ça fait trop longtemps, je veux divorcer ». Eh bien non, l'Éternel est le divorce et la répudiation. Dieu aime au contraire les épouses qui se confient dans le Seigneur, les époux qui endurent et endurent et apprennent à sanctifier Christ dans leur cœur. Alléluia. Voyons maintenant deux bons exemples. On va lire dans Job, chapitre 33, versets 12 à 14. Job 33, versets 12 à 14. Alors Job a glorifié Dieu, c'est un bon exemple. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc là, c'est vraiment extraordinaire quand on sait tout ce qu'il a vécu. Seulement après, les médecins fâcheux, les consolateurs de néant, ses propres amis sont venus pour l'aider. Et ça ne l'a pas beaucoup aidé. Et au fur et à mesure des conversations, des échanges, des dialogues qu'ils ont eus, Job, en fait, a perdu pied. Il ne comprenait plus rien. Il n'a jamais offensé Dieu. Jamais il n'a offensé Dieu. Mais il était complètement perdu. Complètement perdu. Et Élihu, à la fin, à partir du chapitre 33 et même un peu avant, donne des réponses plus sensées que ses amis. Verset 12, nous lisons chapitre 33, verset 12. Job 33, verset 12. « Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. » Alors je vous explique un peu ce passage qui pourrait sembler énigmatique. J'ai relu le livre de Job récemment et c'est en le lisant que ces paroles se sont inscrites en mon esprit. Job voulait que Dieu lui réponde. Il s'est adressé à lui. Il pensait que Dieu avait quelque chose contre lui. Il fallait qu'il le trouve une explication à tout ce qu'il vivait. Et nous sommes tous comme cela. Quand on vit quelque chose de difficile, d'injuste, nous avons tous ce réflexe de nous demander « mais pourquoi ? Quelle est la raison ? Mon mari est décédé, pourquoi ? Ma tante a le cancer, elle est au Seigneur, pourquoi ? Je suis actuellement dans un gros problème financier parce que j'ai pas voulu être malhonnête, j'ai dit non à une fausse déclaration, mais j'en ai les conséquences. Je pensais que si j'obéissais au Seigneur, cela m'aurait été favorable et je me retrouve en difficulté. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons tous le réflexe de Job. Job n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. Il a dit, mais je disais dans ma sécurité que mais il s'attendait à ce que le Seigneur le bénisse. Et ça a été tout l'inverse. Alors Élihu lui répond ceci. Il lui dit, mais Dieu est plus grand que l'homme. C'est cette parole qui s'est inscrite. Dieu est plus grand que l'homme. C'est-à-dire que nous, on comprend rien. Nous, on est ballottés. Mais Dieu est bien plus grand que l'homme. Et ce qui caractérise Dieu, c'est la suite du verset qui l'est dit, c'est il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu n'a pas à s'expliquer parce qu'il est Dieu. Dieu ne se justifie pas de ce qu'il fait parce qu'il est juste et il est saint. Et sanctifier Dieu, c'est croire en sa sainteté. Croire en sa sainteté, c'est croire qu'il a toujours raison, même quand nous, on trouve qu'il a tort. Et Job a eu le courage de dire à Dieu qu'il estimait que Dieu avait tort et que lui-même avait raison. Mais là où il se trompait, c'est que Dieu n'a rien à lui répondre. Et Dieu ne nous dira pas tout, ne nous expliquera pas tout dans la vie. Nous mourrons avec des mystères, avec des points d'interrogation. Et vous aurez beau chercher le Seigneur comme Job a crié à lui. Il a essayé de le faire sortir de sa cachette, même à un moment donné, il s'exprime un peu comme cela. Il essaye de faire sortir Dieu de sa cachette parce qu'il n'en peut plus. Il n'y a que Dieu qui peut quelque chose pour lui. Sors Seigneur, réveille-toi. Mais il n'est pas sorti de sa cachette. Tu es un Dieu qui te cache, c'est écrit. Nous mourrons sans certaines réponses et ne perdons pas notre temps à exiger de Dieu d'avoir toutes les réponses. Parce que ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est de le glorifier sans réponse. C'est de le sanctifier sans réponse. Amen. Dans la gloire, on comprendra. Et je ne sais même pas si on ne sera pas comme Dieu quand même dans la gloire. Mais peu importe Seigneur, je voudrais apprendre dans ma vie que tu es plus grand que moi et que ce qui compte, c'est de sanctifier ton nom. Alléluia. Ah, c'est élevé, c'est profond. Après, il est écrit, Dieu, c'est dans ce contexte-là qu'on connaît bien ce verset, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu ne s'explique pas, ne se justifie pas, mais Dieu nous parle dans les moments difficiles pour nous changer, pour nous enrichir. Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Alléluia. Et c'est que cette semaine, honte à moi, après tant d'années de lecture de la parole, c'est que cette semaine qu'enfin j'ai compris quelque chose du livre de Job. Jusqu'à cette semaine, je ne comprenais pas pourquoi, même quand tout était fini, Dieu ne disait pas à Job, mais en fait, c'est Satan qui l'avait réclamé et je voulais en fait me glorifier par toi. Et tu as vaincu Satan, tu as vaincu Satan. Lorsque je t'ai répondu, tu t'es repenti, Job, et tu m'as reconnu comme Dieu. Tu as réussi ton épreuve, tu as vaincu Satan. Mais non, Job est mort sans savoir ce qui s'est vraiment passé. Comprenez? Et j'avais toujours un petit regret en me disant, ça aurait peut-être été mieux. Des fois, on pense que la Bible serait mieux réécrite. Quelle folie, hein? Et au fond, c'est cette semaine, j'ai vraiment compris. Mais non, c'est la sanctification de ton nom qui était en cause là. Qu'un homme accepte de mourir sans savoir, mais qu'il s'est même repenti, je me condamne, je me repens, parce que je n'ai pas compris que tu es plus grand que l'homme, et que tu avais un plan. Alléluia, Dieu soit béni. Le deuxième bon exemple, c'est celui de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 1er, s'il vous plaît, Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. Voilà. Alors, ce serait versets 12 à 21, mais ce sera un peu long, donc on va écourter la lecture. Philippiens, chapitre 1er, verset 19. Philippiens 1, 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir, c'est gagner. Amen. Alléluia. Il est emprisonné, il peut mourir. Parce que nous, on peut dire beaucoup de belles paroles, mais quand tout va bien. Lui, c'est dans une geôle, et ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. C'est dans une geôle qu'il écrit ces choses-là, et il dit « Christ sera glorifié dans mon corps ». soit que je vis, que j'échappe à cette condamnation, soit que je meure à cause du jugement après mon emprisonnement, je veux glorifier Jésus-Christ. Alors, je crois que ce qui compte, peut-être que personne ne va mourir prochainement, mais même quand notre corps est atteint dans la maladie, ce qui compte, c'est de glorifier Dieu. Amen. Il y a certainement parmi nous des personnes qui souffrent et qui peuvent regretter que leur souffrance ne soit pas abrégée, qu'ils ne soient pas guéris par Dieu. Écoutez, vous avez raison de mettre votre confiance en Dieu et d'espérer en lui pour la guérison. Mais si Dieu ne vous guérit pas, glorifiez-le dans votre corps. Amen. Glorifiez-le dans votre corps. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il est dit que Dieu s'est glorifié à la croix et son corps a été affreusement mutilé. Il a été crucifié. Puis on peut lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au sujet de la sanctification du corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous demande, dans cette sanctification de Dieu dans les moments difficiles, on pourrait dire ici, sanctifier Dieu dans un monde difficile. Moïse devait sanctifier Dieu dans un moment difficile, dans un moment de révolte d'Israël. Job a dû sanctifier Dieu dans un moment terrible au niveau familial, au niveau personnel. Paul a sanctifié et glorifié Dieu lorsqu'il était emprisonné et qu'il vive ou qu'il meure, et d'ailleurs il finira par mourir martyr, il a toujours glorifié Dieu. Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul demande aux Corinthiens qui vivaient dans un monde difficile de sanctifier Dieu dans leur corps. Pourquoi ils vivaient dans un monde difficile? Vous le savez, c'était devenu proverbial. Quand on parlait de la vie, de vivre à la corinthienne, ça veut dire vivre vraiment dans la débauche et dans le péché. Et c'est à ces chrétiens-là que Paul dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, parce que votre corps, c'est plus comme avant. Votre corps, c'est la maison de Dieu. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. » Alors permettez-moi quelques rappels. Quand on veut suivre le Seigneur, on ne s'adonne pas à l'alcoolisme, aux drogues, au tabac, à la mode des tatouages. On ne glorifie pas Dieu quand on se tatoue. On ne sanctifie pas le Seigneur. S'habiller à la gloire de Dieu, sanctifier le Seigneur dans notre corps, c'est aussi, quand on s'habille, se demander « Seigneur, est-ce que tu es glorifié ?» Non pas « Est-ce que je vais plaire ?» Est-ce que c'est au goût du jour ? Mais « Seigneur, je veux te glorifier dans mon corps. » Amen. Alors, mais plus précisément, en fait, ce verset, avant tout, parle surtout d'une chose. Mais on va le lire ensemble pour que vous le compreniez. Verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. » Et Dieu détruira les uns l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Amen. Et c'est là qu'il est dit, mais savez-vous pas, vous avez oublié, vous êtes la maison de Dieu, votre corps a la présence de l'esprit. Même, j'ai sur le cœur de te le dire, fuis la débauche. On ne peut pas prier le Seigneur, et excuse-moi, aller coucher avec des femmes. Ce que Dieu veut, c'est que le lit conjugal soit exempt de souillure. Ce que Dieu veut, c'est que nous n'ayons dans notre vie comme seul partenaire notre épouse ou notre mari. La Bible dit, fuyez la débauche. C'est ça, glorifier Dieu dans notre corps. C'est garder notre corps saint pour le Seigneur et le réserver dans le cadre du mariage. Si vous voulez être sauvé, vous ne pouvez pratiquer la débauche. Ceux qui pratiquent la débauche seront tous perdus. On ne peut pas être sauvé en vivant dans la débauche. Glorifions Dieu dans notre corps. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde actuel, il n'est pas vraiment meilleur que la ville de Corinthe. Vous ne trouvez pas ? Il va y avoir beaucoup de tentations. Et vous savez, si la parole de Dieu est très affirmative et claire sur le sujet, c'est parce que Dieu sait que le monde va exercer tout son pouvoir. Et ne soyez pas étonnés que vous puissiez connaître dans ce domaine des tentations. La tentation, ce n'est pas le péché. Mais Jésus nous a demandé de prier, « Seigneur, délivre-nous du mal ou du malin. » Alléluia. En terminant, je voudrais vous inviter à lire le psaume 84 avec moi à partir du verset 6. Le psaume 84. Psaume 84, verset 6. C'est entre deux pauses, donc c'est une partie du psaume. Hein. Parfois, les couplets des psaumes étaient délimités par des pauses. Certainement, des pauses, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, c'était peut-être un temps de calme pour peut-être réfléchir à ce qu'on venait de dire, de chanter. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Je vous le lis dans une autre traduction. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, c'est ce que veut dire Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. Et il se présente à Dieu en Sion. Amen. C'est mon mot de la fin. J'ai parlé de glorifier Dieu dans les moments difficiles, de glorifier Dieu aussi dans notre corps, dans ce monde difficile. Mon mot de conclusion sera tout simplement que dans le Seigneur, c'est possible de transformer le mal en bien. Il n'y a pas que Dieu qui change le mal en bien. Nous, en nous appuyant et en nous confiant en lui, nous pouvons aussi changer le mal en bien, transformer une vallée de larmes en oasis. Alléluia. Dieu ne veut pas que dans tes difficultés, tu te noies dans tes larmes. Mais Dieu veut que tu le glorifies et le sanctifies dans les circonstances actuelles de ta vie. Amen. Apprenons cela. Que Dieu soit béni. Prions quelques